penche la guitare, penche la guitare, penche la guitare.
1, 2,
penche la guitare.
3, 4.
Je dois vous dire que tout ça fait un peu bricoler.
Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'esthétique, mais la science créatrice et la connaissance technologique.
Les empreintes musicales. Franck Amouroux.
Bonjour à toutes et à tous. C'est le deuxième rendez-vous d'une série de 4 émissions avec notre interlocuteur de ce mois-ci. Nicolas Rouvière est, entre autres, le manager et ingénieur du son de Denès Prigent. Réalisateur d'une 60aine d'albums dans son studio Le Chausson, situé à Plestin-les-Grèves, dans les Côtes d'Armor. Dans la première partie de l'entretien, la semaine passée, nous avons pris connaissance de la construction des premières années de sa vie d'enfant dans ce département du Nord, d'où il est originaire. C'est dans ces années post-industrielles et post-minières que le jeune Nicolas découvre la musique, dans un environnement de briques rouges, de terril et de coron. Cette semaine, nous le retrouvons à notre micro pour qu'il nous présente ses jeunes années d'adolescent et son entrée dans la vie professionnelle. Alors qu'il débute une carrière dans les métiers de la restauration, il accompagne en parallèle aussi les prémices de la structuration de la vie musicale professionnelle dans la région de Lille.
Les empreintes musicales.
Bonjour Nicolas Rouvière.
Bonjour Franck Amouroux.
On rentre dans votre vie adulte, dans votre vie professionnelle. On se rappelle que vous êtes né à Croix, près de Lille, dans le département du Nord. Votre maman directrice, votre directrice d'école. Votre beau-père hypnotiseur qui vous a fait un peu découvrir le monde du spectacle et des planches. De l'appétence pour le sport en cette première partie de vie, hein, jusqu'à l'adolescence. Et puis voilà, l'adolescence se passe... de façon un peu chaotique, surtout au niveau de l'éducation nationale, en fait. Vous redoublez, et puis on vous force un petit peu à apprendre le latin en quatrième, qui vous fait choisir une voie différente de l'orientation et d'aller rapidement apprendre un métier, donc le métier de cuisinier, un CAP, en 2 ans, après la troisième directement.
Après la troisième directement, oui. Ouais. En apprentissage alterné, vraiment dans une entreprise, quoi.
Donc chez un chef étoilé, dans une bonne cuisine gastronomique, dès le début ?
Ouais, dans un restaurant qui a eu une étoile la première année où j'y étais, je crois qu'ils ont eu leur étoile, ou peut-être la deuxième année, je ne sais plus, qui est un restaurant qui est à la Motte aux Bois, entre Hazebrouck et Merville, dans le nord de la France, qui s'appelle L'Orée du Bois.
Et alors là, donc, vous rentrez avec une brigade, hein, comme vous l'appelez, comme c'est un peu le jargon du métier, donc avec des collègues, à apprendre la structure, les procédés d'une cuisine, etc. Ou pour ça, ça vous structure, vous, dans votre vie aussi. Vous apprenez pas mal, en fait, du coup, beaucoup plus dans le métier qu'avec l'éducation nationale.
Ouais, je m'y retrouve bien à travailler, ça me va bien. Ça me fait du bien parce que bon, j'étais un gamin un peu tout azimut, un peu j'adorais traîner, j'adorais aller au bistrot, j'adorais à mon âge, je buvais pas hein, mais j'allais jouer au baby-foot avec mes potes. Voilà, donc ça fallait me structurer un petit peu. C'était pas plus mal que j'aille apprendre un métier dans une brigade, c'était un peu mon armée parce que je voulais pas faire l'armée mais ça a été un peu mon armée avec des chefs un peu à la dure mais ça m'a pas fait de mal, ça m'a recadré. Je trouvais ça plutôt bien. Ouais.
Alors, donc, vous y voyez, vous y apprenez, vous êtes rapidement, vous êtes cuisinier professionnel. On vous recrute dès la fin de votre apprentissage, après votre CAP.
Bah en fait, il s'avère qu'on se rend compte qu'en apprentissage que je suis assez doué pour ça, quoi. Que je me débrouille bien. Et très vite, même dans le sein de mon apprentissage, on me donne des responsabilités. C'est que Je reste en fait commis de base, peu de temps, très vite, je deviens responsable des légumes. Après, je prends un peu du gras, je deviens responsable de ceci, de cela. Donc du coup, sorti de mon apprentissage, où je me plante sur mon CAP, parce que pour des histoires physiques, on ne me donne pas mon CAP, mais mes notes de cuisine étaient excellentes. Mais bon, voilà, c'est des choses que je n'ai pas mon CAP. Puis je n'avais pas envie de passer à la repêche, donc je n'y suis pas retourné. J'étais un peu vexé de ce qu'on m'avait fait, en fait, quoi. Moi, je ne comprenais pas qu'en m'étant cassé la jambe, on ne me donne pas mon CAP. Voilà, donc du coup, je décide d'aller de me faire embaucher. Et de fil en aiguille, j'ai fait pas mal de restaurants où les gens, assez vite, me donnaient des responsabilités. Ouais.
C'était un peu en rébellion aussi avec l'éducation nationale. Et pour autant, comment pouvait vivre cet état de fait de votre maman directrice d'école, justement, à l'éducation nationale?
Je ne sais pas si c'était en rébellion, si je ne comprenais pas, moi. Je ne sais pas si elle appelait ça de la rébellion, mais je ne comprenais pas pourquoi. Après, ma maman, c'était pas toujours... J'étais un gamin pas facile, donc... Elle vivait un peu ce que je faisais subir un peu des choses, et elle les absorbait le mieux possible. Voilà. Donc, non, je ne sais pas, c'était... En fait, toute cette période-là me paraît aujourd'hui assez limpide, en fait. C'était mon choix. Voilà. Il n'y avait pas d'histoire de rébellion, de quoi que ce soit. C'était, voilà, j'avais envie d'avancer.
Donc, vous devenez cuisinier. Alors, est-ce que ça a pris... c'est devenu un métier sur lequel vous êtes engagé vraiment pendant plusieurs années?
J'y suis pas resté tant que ça. Mais parce que je crois que j'ai quitté la restauration en fin 88. J'y suis resté une bonne année, en fait... Mais j'ai fait beaucoup de restaurants à droite à gauche, je faisais beaucoup de remplacements, les gens me faisaient confiance vite, mais bon, pareil, j'étais pas encore bien stable, quoi. Il fallait que ça bouge, quoi. Il fallait que j'aille à droite, à gauche.
Il entoure de la maison, hyper nuit, hyper. Celui bien nommé la bête, le mal grandit celui-même. Il entoure de la maison, hyper nuit, celui bien nommé la bête, celui qui le lait au pimen, celui-là même qui se souvient d'un jour derrière, bien enfui, bien qu'enfui, il n'a rien oublié du jour entre tous cruel. Au bout duquel il a vu sa maison brûler, puis tomber. Là, il revient pour se venger de tout un village, de tout un village. Et là, je suis là, je suis là. Il entoure de la maison, hyper nuit, il n'a pas oublié ce jour entre tous cruel, au bout duquel tout est parti, tout en fumée. Dans le ciel, là il revient pour se venger. Tout un village. je suis là. On lui était tombé dessus, hyper nuit, et fait passer le goût des fleurs, le goût des fleurs.
Musical.
En 87, vous rencontrez donc un ami musicien, membre du groupe La 25e Heure, qui est assez installé sur l'île, dans une esthétique musicale sur le reggae, qui donc font des reprises de Bob Marley. Alors, cette rencontre-là, vous étiez donc salarié dans le milieu de la cuisine, et puis cette rencontre-là vous fait découvrir un autre métier.
En fait, lui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans un restaurant. Qui était musicien, pas professionnel, amateur, mais qui, pour gagner sa vie, travaillait dans un restaurant. Donc on s'est rencontrés dans un restaurant, et de fil en aiguille, moi je vivais encore chez ma mère à cette époque-là, j'ai fini par aller vivre chez lui parce qu'il avait de la place. Voilà. Donc on a passé de longues soirées à discuter, et lui était un amoureux de la musique, et il m'a tenté à aller vers la musique, vers la musique, vers l'attraction de la musique. Et très vite, lui, il y avait ce groupe, la 25e heure, et moi j'avais un peu de sous, donc je m'étais acheté une console, des enceintes, un peu de micro, un 4 pistes, et je les enregistrais, je les sonorisais quand j'avais du temps le week-end. Tout en travaillant, continuant à travailler en cuisine, je faisais ça en tant qu'amateur, en fait. Quoi. Voilà.
Première prise en main d'une régie, vraiment, comprendre comment ça fonctionnait, les retours, les façades, le son, tout ça, voilà. Le début d'un apprentissage de vie professionnelle autodidacte.
Ouais, c'est ça. Il s'avère que j'étais un matheux. Pendant mes études, pendant que j'étais au collège, j'étais très bon en maths. J'ai rarement eu en dessous de 18 de moyenne. Donc j'étais vraiment fort en maths, mais j'étais complètement passé à côté. Et en fait, je me suis découvert assez scientifique et assez matheux à cette époque-là. C'était assez fluide pour moi de brancher des micros, de faire du son. C'était assez fluide, en fait. J'avais pas trop besoin d'y réfléchir. C'était assez naturel, en fait, quoi.
Là, vous faites un lien entre mathématiques et prise de son.
Ah bah ouais, parce que c'est très matheux, en fait. Hein, c'est du calcul. Hein, faut pas oublier que le son, c'est du calcul. Hein, donc, ça a été de l'électricité pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est du calcul. Mais il y a quand même un côté très scientifique dans le son, très mathématique. Et ça, c'est vachement important. Ouais.
Donc, vous accompagnez ce groupe, la 25e heure, un groupe de la région lilloise. Vous êtes toujours cuisinier et puis vous commencez à démarcher une société de sonorisation tenue par Dominique Thibault, qui donc s'appelle Silver Sound, Silver Light. La rencontre se passe un vendredi.
Ouais, ça se passe un vendredi, Dominique. Alors aujourd'hui, ça n'existe plus, hein, Silver Sound. Cherchez pas, ça n'existe plus. Il est parti en retraite, et tant mieux pour lui. Et en fait, ouais, un vendredi, c'était un vendredi de la veille de la braderie de Lille. Bon, c'est pas sympa ce que j'ai fait ce week-end-là, mais j'en avais marre, en fait, de travailler dans la cuisine. Là, le dernier restaurant où j'ai travaillé, ça s'appelle la Brasserie André à Lille, qui est un restaurant très connu sur la place de Lille, qui est une brasserie qui fait énormément de couverts dans une rue piétonne très connue à Lille. J'étais chef de partie sur le froid et j'avais beaucoup de responsabilités. Et je pense que j'en avais pas envie de tant que ça. J'avais aussi envie... La musique m'attirait de plus en plus. Mon copain m'avait converti de plus en plus à aller vers ça. Donc je cherchais des solutions pour aller vers ça. Et un jour, je me suis décidé de démarcher des sociétés de sonorisation lilloise qui existait déjà à l'époque. Il y en a eu plusieurs et je suis tombé un jour sur ce monsieur, Dominique Thibault, Silver Sound. Je l'ai appelé et il m'a dit venez me voir. Je suis passé le voir. C'était un vendredi, on revient là, c'était le vendredi la veille de la braderie de Lille. Et je suis sorti de son bureau. Il m'a dit rendez-vous lundi, on fait un essai à partir de lundi. Donc je suis allé au travail quand même le samedi matin. Et le samedi après-midi, pendant la braderie de Lille, j'ai clashé avec mon chef et je me suis sauvé. Voilà, je me suis sauvé, tout simplement. C'est le cas de le dire. Et le dimanche, j'étais un peu penaud parce que j'avais lâché un boulot que j'aimais quand même bien. Et puis il y avait aussi l'aspect financier, faut dire ce qui est. Et puis lundi matin, me voilà dans cette société de chez Silverstone et les choses se passent bien. Et à la fin de la semaine, ils me proposent une première embauche à mi-temps. Donc pour moi, c'était un soulagement, quoi. Voilà.
J'étais une jeune fille ou bien un garçon. Je ne sais plus très bien.
La grande Sophie, quand le mois d'avril. Elle sera en concert le 26 mars à Janzé, en Ille-et-Vilaine.
J'étais une fleur ou bien un poisson, même fané, je buvais la tasse dans mon aquarium au cœur des saisons. Il y a le mois d'avril qui passe, quand le mois d'avril s'échappe, je perds tous mes repères. Quand le mois d'avril s'échappe, j'oublie les sensations, les instincts fragiles, les parfums de déjà vu, le moral en exil et les portes sans issue, les jours difficiles, les envies en garde à vue. Quand est-ce que tout commence? Dis-moi, dis-moi. J'étais un orage ou une dépression. Dans le ciel se comptent les doutes. Parmi les nuages, il y a un rayon de soleil qui chasse les gouttes. Ouais. Quand le mois d'avril s'échappe, on a déjà changé d'heure. Quand le mois d'avril s'échappe, c'est pour laisser place. Joli mois de mai, joli mois de mai, qui va tout changer, moi de même, joli mois de mai.
Sur ce week-end-là, en plein rush, vous laissez donc la cuisine et vous décidez sur un peu un coup de tête, mais sans doute quelque chose que vous ressentiez assez profondément, de façon, une vision un peu plus professionnelle, sur du long terme, puisque c'est le cas encore aujourd'hui, près de 30 ans plus tard. Vous êtes donc ingénieur du son, mais au tout départ, en fait, ce monsieur Dominique Thibault, chez Silversound, vous embauche plus en mi-temps, mais en régie lumière, et vous l'accompagnez sur des prestations dans le câblage, vous n'êtes pas sur le son au tout départ.
Non, au début, je ne suis pas sur le son, parce que, en fait, la personne qui fait le son dans l'entreprise, c'est lui. Donc, il s'avère qu'à l'époque, lui, il est un peu seul avec des gens qui l'aident de temps en temps, mais il se retrouvait toujours un peu seul. À l'époque, on était beaucoup plus rudimentaire et beaucoup moins technologique qu'aujourd'hui. Hein. Bon, par contre, c'était plus lourd, hein, c'était plus physique. Mais il s'avère que il commence, je pense, à ce moment-là, déjà... Ça, c'est des rencontres qui sont rigolotes, parce que je pense que lui, à ce moment-là, il se sent déjà un peu fatigué. Je sais qu'à l'époque, il a des problèmes de dos, donc il faut qu'il seconde un petit peu. Il ne peut plus travailler tout seul autant que ça. Donc du coup, je suis la personne qui tombe à pic, j'ai l'impression, un peu, quoi, à ce moment-là. Et il me propose des éclairages. Et les éclairages, c'est quelque chose qui m'attire et qui m'attire encore. Hein. C'est quelque chose... Je suis très sensible aux éclairages aujourd'hui. D'ailleurs, quand je fais travailler des gens avec moi sur des projets où je suis un peu en direction, je suis très attentif à ce qui se passe en éclairage. Donc, et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'éclairage. Et donc, chez lui, je fais plein de spectacles, je fais plein de créations, je fais même des gros sons et lumières avec 1500 projecteurs. Vraiment, toujours très loin dans les choses, quoi. Et je me lance sur des gros spectacles. Mais toujours avec l'attirance du son. Toujours l'attirance du son, toujours l'attirance de la musique, quoi. Pour moi... L'éclairage, alors les éclairagistes vont peut-être râler ou je sais pas. Pour moi, l'éclairagiste, c'est quelque chose qui est connecté à la musique, c'est pas quelque chose qui est en symbiose avec la musique, quoi. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'il y ait ce détachement, parce que ça leur permet de faire d'autres choses. Mais le son, c'est connecté, c'est très connecté, c'est c'est très en symbiose, quoi. C'est...
Ça fait partie d'un instrument.
Ouais, c'est un instrument, la première chose qu'on entend, c'est un son. Et la lumière, à un moment, Dominique m'a dit, moi, je ne fais plus que gérer l'entreprise, je reste au bureau, et puis, tu vas prendre le son. Donc, j'ai fait rentrer un ami que j'avais rencontré à l'époque, qui nous aidait sur les lumières déjà, qui est devenu lui responsable de la lumière, en fait, quoi.
Il faut dire que, aussi, ça c'était un mi-temps au tout départ en éclairage, que vous aviez eu un autre mi-temps aussi en construction de flycase à l'époque, hein, c'est ça, ouais. sur Roubaix.
Ouais, sur Roubaix, en fait, je partais le matin, j'allais chez Silversound, alors ça c'était en face de chez moi pratiquement, et l'après-midi je prenais un train pour aller jusqu'à Roubaix, où là je fabriquais des flycases toute l'après-midi. Ça a duré quelques mois, c'est bien aussi parce que du coup on s'est commencé à fabriquer les flycases.
Les flycases, hein, pour les non-initiés.
Les flycases, c'est les caisses dans lesquelles qui protègent le matériel, dans lesquelles on range le matériel, où on organise notre matériel là-dedans, en fait, quoi. Voilà.
En 89, alors ça, c'est toujours un peu parallèle, en fait, hein, à cette vie de salarié chez Silversound. En 89, donc, vous êtes le sonorisateur d'un club rock, d'un café-concert qui organise jusqu'à 5 concerts par semaine. En 89 à Lille.
Ouais, alors je retrouve pas le nom de ce club, j'en suis désolé, parce que c'est vraiment un endroit où j'ai fait mes armes, beaucoup. C'était très formateur. C'était un café-concert. Il faudrait que je retrouve ce nom. C'était un café-concert à Lille, avec des concerts en cave. C'est-à-dire qu'il y avait le bar en haut, et on descendait en cave, et en cave, c'était l'endroit où il y avait des concerts. Et là, il y avait une console et des enceintes. Il y avait plein de groupes de rock, de punk rock, il y avait de tout qui passait là-dedans, mais beaucoup de trucs. Assez dur quand même, du punk rock et tout ça. Et la console était derrière les enceintes.
Ah oui.
Donc ça, c'était très...
C'est difficile, ça, pour prendre un son.
Ah ben, pour prendre un son, ouais, c'est-à-dire que tu n'entends pas ce que tu sonorises, donc c'est pas mal. Mais quand tu l'entends avec le son arrière de l'enceinte, ce qu'on appelle l'onde arrière. Et en plus, à l'époque, l'onde arrière, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Donc c'était assez compliqué, mais c'était très formateur. C'est-à-dire qu'il fallait te déplacer, il fallait aller écouter, c'était dans l'action, quoi. Mais c'était j'y ai passé pas mal de temps et j'y ai fait beaucoup de concerts. Et je ne sais plus comment on m'a confié ça. À l'époque, j'avais peur de rien. Moi, j'y allais, je me proposais, et les gens me disaient oui. Et puis comme j'étais passionné, ça se passait bien en général, quoi.
Et puis, c'est dans ce club-là, dans ce concert-là, dans ce café-concert-là, que vous faites la rencontre du premier groupe qui aura compté pour vous, quand même, hein, les Marcel et son orchestre, les Lillois les plus fameux.
Eh bien, ouais, Marcel et son orchestre, ouais, je les ai rencontrés là, et notamment là, et dans divers endroits de concerts à Lille, parce qu'à cette époque-là, en 89, c'était un peu leur éclosion sur Lille, puisque c'est un groupe qui vient de Boulogne-sur-Mer à la base et qui est né en 87. Voilà, pour tout dire. Et je les ai rencontrés à ce moment-là, ouais. Je les ai rencontrés dans ce bar plusieurs fois. Et ils ont fini par me demander de venir les accompagner sur une date, qui était une date très importante pour eux, qui était une...
En juillet 89, alors.
En juillet 89, qui était une première partie de la Mano Negra à Boulogne-sur-Mer, donc vraiment dans leur ville, quoi, native, quoi. Donc ils voulaient vraiment avoir un sonorisateur qui soit impliqué dans leurs histoires, quoi. Voilà. C'est là que j'ai commencé à travailler avec eux.
Un peu à la hauteur de l'événement, qu'est-ce qu'on garde de ce moment-là, alors, de cette soirée-là, Nicolas Rouvière?
Je me souviens d'un super concert de la Mano, mais je me souviens plus trop du concert de Marcel, parce que je pense que j'étais un peu soucieux, j'étais un peu dans ma bulle à ce moment-là, et je sais pas trop quoi en penser de ce concert, en fait, je m'en souviens pas trop, mais je me souviens surtout du concert de la Mano derrière, qui était assez redoutable et qui était assez incroyable, c'était un groupe de scène incroyable. Mais les Marcel s'en étaient pas trop mal tirés, à mon souvenir, je crois.
Vous connaissez ? Yeah.
Merci à Nicolas Rouvière, notre invité du jour du studio Le Chausson à Plestin-les-Grèves. On se donne rendez-vous pour ce même créneau horaire la semaine prochaine. Les empreintes musicales d'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Bise, bisette, bisous, ciao, kenavo, à bientôt.